Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, bien cuisiné en voyage à vélo. Vous êtes sur Cause Commune, c'est le moment de Rayon Libre. La première émission de 2026. Cette émission n'est pas en direct. Hein. Donc comme une rengaine, mais une rengaine importante. Merci de votre écoute, merci de vos likes et commentaires, merci de vos messages sur nos réseaux sociaux. Merci pour vos dons aussi. Cause Commune est une radio associative qui existe aussi parce que quelques auditeurs, quelques auditrices nous aident financièrement. Des dons qui nous permettent de diffuser, d'entretenir notre matériel, de le renouveler. Chaque euro sera évidemment le bienvenu et bien utilisé. Aussi, ce vendredi 9 janvier, notez notre soirée open mic, porte ouverte à partir de 19h. Apportez une boisson, des fruits, rien, des copains. Venez partager un moment avec des bénévoles de Cause Commune et venez causer dans le micro si ça vous chante. C'est au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18. Avant de cuisiner, de faire la popote, la première diffusion de cette émission est le premier lundi de janvier 2026. Le moment donc de vous souhaiter, de nous souhaiter une belle année 2026. Je vous avoue, j'ai un peu de mal là, au moment de l'enregistrement, le 24 décembre, de vous proposer une liste de vœux pertinentes. Liste la grande cause nationale en 2026, la même qu'en 2025, la santé mentale, comme un aveu de nos politiques. On vous a rendu fou en 2025 et pour nous faire pardonner, eh ben en 2026, on met la santé mentale en sujet principal. Il y aura les élections municipales. Vont-ils réussir à nous faire aller mieux? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr. Il me semble que c'est à nous, nous tous, nous toutes, de décider si on peut aller mieux. À vous, à nous, de choisir les élus locaux qui vont nous représenter. En ne choisissant pas les plus médiatiques, les beaux parleurs ou les belles parleuses, en ne choisissant pas de glisser son bulletin pour celui ou celle qui nous fera les plus belles promesses, mais poser son bulletin pour celles ou ceux que nous avons envie de croire, en choisissant celui, celle qui a un programme généreux, non pas pour nos petits enjeux personnels, mais un programme pensé pour les autres, pensé pour nos voisins, pensé pour nos enfants aussi, pensé pour que globalement nos villes aillent mieux, pour que globalement nous puissions mieux vivre ensemble. En 2026, la priorité sera de faire de la santé mentale une réalité tangible dans la vie quotidienne de chacun. On peut le lire sur le site web de l'État. Cette réalité tangible passera par les urnes, par vos choix. Aussi, je pense simplement à vous tous, vous toutes qui vivez, qui subissez des hauts et des bas, des coups de bien et de moins bien sur votre morale. Nous sommes tous concernés. Certains, certaines plus que d'autres. Sans verser dans des propos simplistes, voire même simplets, j'ai fait un constat. Quand j'ai décidé de glisser du vélo dans mon quotidien, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, cela m'a permis d'aller bien mieux. Je l'ai verbalisé il y a peu de temps. Le vélo taf m'a évité la dépression, le burn-out. Pédaler entre 40 et 50 km par jour m'a fait vraiment du bien, un bien fou. Aujourd'hui encore, pédaler est mon baromètre. Quand je décroche, quand j'ai moins envie de pédaler, c'est que je vais moins bien. Alors je me force un peu à aller pédaler le soir, le matin, le week-end. Je retourne dans un cercle vertueux. Plus je pédale, mieux je vais. Si cela a fonctionné pour moi, peut-être que cela fonctionnera pour vous. Oui, mon traitement est le vélo. Je vous souhaite en 2026 de trouver votre traitement. Il a peut-être 2 roues, une paire de pédales et une selle. Une autre façon de prendre soin de soi, c'est de bien manger. Au-delà de bien manger, c'est de prendre du temps pour cuisiner, prendre du temps pour partager un repas. Avec mon invité du jour, nous allons constater qu'on peut bien manger, bien cuisiner, même quand le confort n'est pas là, même quand nous sommes en itinérance sur nos vélos ou en randonnée. On peut bien manger pour 3 fois rien, ça s'apprend. Nicolas Leroux est cuisinier, il est aussi l'auteur de ce livre Food Rando, publié chez Glénat en 2025. Un rayon libre qui a des allures de top chef, finalement. Bonjour Nicolas Leroux, merci infiniment d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme, merci de m'inviter.
Et ben
introduction qui me touche aussi pas mal.
Et ben merci pour ce petit mot, Nicolas. Nicolas, j'ai envie de vous poser la première question. C'est quoi, à vous, votre baromètre, le baromètre de votre humeur?
Le baromètre de mon humeur, donc comment je me sens là maintenant?
Non, là dans mon édito, je dis que moi, le vélo, je me rends compte que c'est mon baromètre. Quand j'ai pas envie d'en faire, c'est que je vais pas bien ou pas très bien, et donc je me force un peu à y aller. Vous, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est de vous mettre derrière les fourneaux, par exemple?
En tout cas, si j'ai pas faim, c'est que je vais pas bien. Donc oui, c'est mon baromètre, ouais.
Ouais.
Et pour aller mieux, le vélo, je pense que c'est une bonne option, en tout cas, et qui est aussi la mienne, ouais.
Ce qu'on peut revoir et reconnaître dans votre livre, c'est aussi, j'ai la sensation que c'est, vous avez besoin, vous, d'aller dehors, d'être dehors. Est-ce que vous diriez, pour vous, qu'une randonnée à pied ou à vélo réussie est conditionnée parce que vous allez manger avant, pendant et après?
Oui, ça peut jouer, ouais. Ça peut jouer. En tout cas, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans une sortie à vélo ou à pied, ouais.
Ouais. Et pareil, ce livre Food Rando, au-delà d'être un guide et de recettes, et à mon sens, quand je le lis, il ressemble à une sorte de manifeste pour la promotion d'une vie plus sobre. Est-ce que j'ai raison?
Oui, c'est tout à fait ça, et c'était l'idée au travers de ce livre de proposer des solutions pour bien manger, mais aussi de de mettre en avant moi ma façon de voyager, ma façon de vivre en tout cas, ouais.
Ouais.
Qui est plus sobre et c'est ce que je mets en avant. Oui.
Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous dites ma façon de voyager et ma façon de vivre. Quand vous voyagez, vous avez la sensation d'être dans le prolongement de votre vie quand vous êtes plutôt sédentaire ?
Tout à fait, oui, tout à fait. Et en tout cas, ma façon de voyager est vraiment axée sur la façon dont j'ai envie de vivre. Donc, ouais.
Mais alors justement, mettez des mots là-dessus, votre façon de voyager. Comment voyagez-vous ?
Principalement du coup à pied et à vélo, et principalement un peu moi l'idée d'un voyage, c'est un voyage qui commence au pied de ma porte, quoi. Donc
ouais.
J'ai arrêté de faire des longs voyages avec bah du coup des qui utilisaient de l'énergie fossile, et puis l'idée c'est de faire tout à proximité de chez soi avec des moyens, on va dire, plus sobres et plus propres, quoi. Donc
ouais.
Le train, le mix train vélo est quand même pour moi l'idée d'un voyage réussi, quoi.
Ouais. Et donc ça veut dire, quand vous dites que vous avez arrêté, ça veut dire, et c'est pareil, c'est ce qu'on lit dans la bio de votre livre, vous êtes rendu notamment en Italie en partant de France pour aller faire une, si je me souviens bien, pour aller faire une période sur un bateau de Sea Shepherd, c'est ça, hein?
Oui, c'est exactement ça, oui. Je commençais initialement juste un voyage à vélo à travers tous les massifs français, et puis en cours de route, si j'ai peur de ma peau pour aller cuisiner sur un de leurs bateaux, donc j'ai un peu changé ma trajectoire et j'ai rejoint le bateau à vélo.
Ouais.
Fait 3 mois de mission donc en mer Méditerranée pour préserver la biodiversité sur ce coin-là qui est vraiment en tension.
Ouais.
Et je suis revenu depuis la Sicile, la Sardaigne, la Corse jusque l'île à vélo. Ouais.
Ouais.
Ça c'était un peu, je dirais, ma plus belle aventure, je pense. Ouais. En tout cas, la plus complète et qui rassemble un petit peu tout ce que j'aime. Donc le voyage et la cuisine et l'engagement pour essayer de préserver la planète.
Oui, de sensibiliser.
Ouais.
Ouais. Et justement, là, quand vous me dites Sea Shepherd, alors pour les auditeurs, auditrices, j'imagine qu'ils connaissent un Sea Shepherd, mais c'est une association, je crois que c'est une ONG, je crois, ou je ne suis pas sûr.
Oui, c'est une ONG, oui.
C'est une ONG qui est sur les mers et qui essaye de protéger l'océan et le monde marin, hein, c'est ça ? Quand vous dites ils m'ont appelé pour aller cuisiner à bord pendant 3 mois sur une mission, vous, aujourd'hui, vous êtes identifié comme un cuisinier ? C'est votre métier ?
C'est mon métier actuellement, oui. Depuis 3-4 ans, ouais, il y a eu un petit changement de vie où je travaillais dans le monde de la logistique à l'époque.
Ouais.
Et je me sentais plus concerné, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, la cuisine s'est un peu imposée assez naturellement parce que je suis un gourmand et j'aime bien manger. Et du coup, c'est venu. Donc oui, là, c'est mon activité principale depuis maintenant 3 ans, oui.
Et pareil, quand vous dites j'ai changé de vie, je suis devenu cuisinier, vous avez appris tout seul ou vous avez fait une formation avec un diplôme au bout ?
J'ai fait une formation qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi, qui se passe juste en 12 semaines et
ouais.
qui est pour les personnes qui sont en reconversion ou en réinsertion,
ouais.
Et qui amène un diplôme de cuisinier, ouais, un peu l'équivalent d'un CAP. Donc après, j'ai passé le CAP en candidat libre.
D'accord.
Ça permet d'avoir une bonne base et puis après de faire la cuisine qu'on aime.
Et comment Sea Shepherd vous identifie ? Comment ils ont votre numéro ? C'est quoi ? C'est du réseau ? C'est parce que vous étiez déjà un peu dans le circuit ou comment ? Enfin, voilà.
Il y avait du réseau et en fait j'avais postulé parce que pour moi c'était un peu l'aboutissement de ce changement de vie, quoi.
Ouais.
Pour moi, Sea Shepherd, c'est une aventure, c'est du coup le métier de la cuisine, et puis c'est un engagement d'activiste.
Ouais.
Et ça regroupait tout ce que je voulais faire.
Ça cochait
donc j'avais postulé, il y a eu un petit peu de réseau également pour avoir les bonnes personnes
au
téléphone.
Ouais. Ouais. Donc ils ont pas regardé qui avait été fraîchement diplômé entre guillemets, ils vous ont appelé, donc
ils
connaissaient.
Tout le monde peut postuler pour y travailler, et en fonction des besoins, ils ont beaucoup de besoins en cuisine principalement,
ouais.
Parce que c'est des métiers, c'est dur d'être à bord.
Ouais.
Quand on postule, on est rappelé quand on a des compétences particulières. Ouais.
Et alors, j'ai quand même envie de vous poser la question, parce qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt sur une émission tournée autour du vélo, et on va dire que vous allez nous raconter comment est-ce qu'on peut cuisiner quand on est en randonnée ou quand on est hors domicile, entre guillemets.
Mm-hmm.
Quelle similitude vous avez trouvé entre cuisiner en mer à bord d'un bateau et cuisiner en pleine nature à côté d'un vélo ?
Il y en a pas mal. C'est en termes de, on cuisine avec ce qu'on a sur un bateau. On part avec des provisions et donc du coup les provisions partent assez vite. Donc après on s'adapte et la similitude, ça serait un peu la créativité quoi. On a des choses assez peu, on va dire, ou en tout cas on n'a pas l'opulence qu'on peut avoir quand on est sédentaire chez soi. Et faut être créatif pour trouver des recettes qui puissent être sympathiques et se faire plaisir après une journée de vélo ou de travail en mer.
Ouais. Et alors on va tenter d'être un peu pratique, comme votre livre. Par où commencer quand on veut cuisiner en itinérance? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'on s'entraîne d'abord chez soi, par exemple, dans le confort justement de sa cuisine?
Moi, je pense pas. Moi, j'aime bien se dire que c'est dans les éléments qu'on va trouver la solution.
Ouais.
Après, les conseils prioritaires, c'est avoir le matériel nécessaire, je pense, qui est assez simple, hein, qui est la base, un réchaud, un couteau et une fourchette cuillère. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut commencer avec des choses simples et puis aller un peu plus loin si on a envie de s'amuser.
Ouais, mais c'est quand même quand on vous lit dans ce livre Food Rando là qui est publié chez Glénat, vous racontez que vous avez quand même par exemple des éléments de base, des ingrédients de base comme de l'ail, enfin des épices qui restent, ouais. Du gingembre aussi. Vous dites voilà, ça j'ai toujours de l'ail et du gingembre sur moi parce que ça permet de relever n'importe quel plat en fait. C'est ça que vous dites.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ben c'est vrai qu'il y a toute une partie matérielle et après il y a une partie ingrédients et c'est chouette d'avoir une petite base, une petite trousse à outils qui permet de pimper et de sublimer des repas qui vont être très simples. Donc ça va être de l'ail, de l'oignon, du gingembre, quelques épices, un mix d'épices qu'on peut préparer avant chez soi en fonction de ce qu'on aime.
Ouais.
Et moi c'est vrai que j'amène toujours de l'huile d'olive, ce qui permet de rendre un peu moins un steak et d'apporter du gras aussi dans un plat et de vraiment cuisiner. À pied, c'est très facile de l'emmener et puis à vélo, il y a quelques astuces. Mais oui, c'est d'avoir un peu cette trousse à outils qui fait que de la semoule, un féculent classique va devenir en fait super bon, quoi.
Ouais. Mais là, vous glissez un petit mot. Il y a quelques astuces parce que là, ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, qui partent en itinérance où chaque gramme finalement emporté potentiellement compte. Alors, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on est en itinérance tranquille ou est-ce qu'on est en ultra distance avec une notion de performance? Mais ouais. Vous dites, il y a des petites astuces pour emmener de l'huile d'olive. Ça veut dire quand vous dites, vous en avez toujours avec vous. Vous avez toujours de 50 centilitres. Une bouteille de 50 centilitres d'huile d'olive avec vous?
Ouais, ma base, moi, c'est toujours 50 centilitres. Après, la bouteille, du coup, je la transfère dans une bouteille de souvent San Pellegrino parce que le plastique est un peu plus
dense et épais, ouais. Et un peu plus, ouais.
Exactement.
Ouais.
Et après, il faut trouver où est-ce qu'on la met. Donc, si on est en cyclotourisme avec des grosses sacoches à l'arrière, c'est assez facile.
Ouais.
Ça se glisse facilement. Moi, j'ai plus l'habitude de voyager avec juste une sacoche de sel et assez minimaliste. Dans ce cas-là, ça peut s'accrocher sur la fourche.
Ouais.
Ça peut se mettre au niveau de la sacoche de 4. Ça peut aussi se mettre sur la sacoche de sel. Ça reste que... C'est vrai que c'est 500 grammes, du coup, en plus.
Ouais.
Mais dans une optique de voyage et de confort de bien manger, pour moi, c'est devenu un indispensable que...
C'est aussi indispensable pour vous que la pompe pour réparer une crevaison.
Oui, carrément. Et puis dans ce cas-là, ça permet d'huiler un peu la chaîne.
Oui, bien sûr.
À déconseiller. Ouais.
À déconseiller, mais encore s'il n'y a rien d'autre, allez, un petit coup.
J'avais fait ça en Italie, moi, justement. Ouais. Mais c'est bien sur le moment, mais après ça prend un peu toute la poussière de la route. Quoi.
Ouais. Quand je vous posais la question, est-ce que c'est bien de commencer à s'entraîner d'abord chez soi? Alors moi, vraiment, je m'étais mis à ma place en me disant, mais si je dois partir en voyage à vélo et en plus me faire ma popote, j'aurais commencé probablement en prenant votre livre et en commençant par votre section grignotage, en cuisinant mes propres barres de céréales, par exemple, juste pour prendre la main. Est-ce que, par exemple, ça vous semble être une bonne idée? Parce que là, vous, évidemment, vous êtes, c'est votre métier, vous êtes cuisinier, mais mettez-vous à la place de quelqu'un comme moi qui cuisine un peu, mais qui voyage aussi un peu et parfois à vélo. Enfin, relier le tout n'est pas si naturel pour moi. Est-ce que, ouais, par exemple, nos auditeurs, ceux qui sont un peu comme moi, allez, prenez la section grignotage et apprenez à faire vos propres barres de céréales, c'est une bonne façon de commencer?
Oui, c'est sûr. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a quelques recettes, dont les barres, qui sont préparées en amont chez soi et qui, du coup, permettent d'emmener ces, passer voir de céréales maison avec toi sur une sortie à la journée ou sur un voyage de 4-5 jours.
Ouais.
Et après, si on a besoin d'être rassuré pour être sûr que son matériel marche bien ou de tester des recettes du coup en formule réchaud, bien sûr que il faut s'écouter et puis faire ce dont on souhaite. Après, je considère que sur les recettes, en tout cas, que je propose, il y en a vraiment des très faciles, des un peu plus difficiles. Oui, c'est les plus difficiles si on veut les tester en amont. Pareil, hein, c'est en fonction de ce que chacun souhaite faire, quoi. Donc,
ouais. Et puis de son expérience, et puis d'une sorte de quel est l'Everest de chacun quand ils partent comme
carrément.
Ça. Ouais.
Après, je considère que le réchaud c'est entre un gaz à la maison et une poêle et un réchaud et une popote.
Ouais.
Voilà, les outils sont les mêmes, sont plus un peu plus minimalistes et petits, quoi. Mais il y a pas beaucoup de différence.
On va se faire la pause musicale, auditeur, auditrice, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 FM, à Rayon Libre qui cuisine, qui popote, qui tambouille. Nous sommes avec Nicolas Leroux, aventurier et cuisinier, ou l'inverse, auteur de ce livre Food Rando, paru chez Glénat il y a quelques mois. Je vous propose de glisser dans vos oreilles Aaron Fraser, Payback. On se retrouve dans quelques minutes avec Nicolas Leroux. Nous sommes toujours avec Nicolas Leroux, auteur de ce livre que vous devriez tous avoir dans votre bibliothèque ou dans votre musette, Food Rando, paru chez Glénat, deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.fm. Nicolas, juste avant la pause musicale, on évoquait le réchaud, l'entraînement et puis s'approprier quelques recettes, les ingrédients, le must-have. Mais est-ce qu'il y en a des ingrédients qu'il faut bannir quand on part comme ça en itinérance, à vélo ou en randonnée ?
Des ingrédients qu'il faut bannir là, comme ça, j'en ai pas en tête. Après, moi, je dirais les lyophilisés, quoi, où
ouais.
Je me bats un petit peu pour justement proposer d'autres choses, une alternative en tout cas à cette solution-là. Bon, après, j'ai pas en tête là d'ingrédients. Souvent, on a peur d'emmener des œufs et au contraire, je pense que c'est un ingrédient qui peut ravir et en fait, qui dans la boîte à œufs tient très bien, quoi. Et je pense qu'il faut il faut le tester.
Il faut tester, prendre des œufs, juste faire attention quand on ferme la sacoche de pas bourriner, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. Ou alors aller mettre dans des endroits, mais en fait l'emballage en carton est hyper solide, quoi. Et j'ai pas mal d'expérience à bien les secouer et en fait ça tient bien. Et pour un petit déj, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace de se faire des œufs brouillés avant de
partir. Ah ouais, c'est canon. Vous faites rêver. On parlait en première partie de l'émission que je vous disais, pour moi, il y a un énorme gap entre partir pédaler et cuisiner. Est-ce que vous, au-delà de votre livre, vous proposez par exemple des formations ?
Pas des formations, mais des ateliers. Oui, je fais pas mal de festivals d'aventure où je propose un petit atelier qui dure une heure en présentant les différents types de réchaud, il y a différents types de combustibles, qu'il faut emmener du coup en ingrédients avec soi, et puis on se fait une recette tous ensemble. Si on peut et qu'il y a possibilité dans un jardin, on regarde un petit peu aussi les différentes plantes sauvages qu'on peut cueillir pour venir pimper un petit peu le repas du soir. Donc des ateliers, ouais.
Et alors justement, là, vous me parlez de plantes sauvages, il y a toute une section dans votre livre sur les plantes sauvages, l'ortie, l'ail des ours, l'oseille, la ciboulette. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des saisons plus propices à la bonne tambouille en itinérance ?
C'est vrai qu'en termes de printemps-été, pour les plantes sauvages, oui, c'est un peu plus sympa. D'une manière générale, c'est un peu plus sympa d'aller bivouaquer à ces périodes-là.
Ouais.
En tout cas, pour les plantes sauvages, oui, l'été et le printemps, c'est là où il y a plus de possibilités. Ouais. L'ail des ours au printemps, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à reconnaître et qui fait vraiment, ouais, qui sublime un plat. Il y a pas de doute.
Ouais, hein. Ouais. Et pareil, ça veut dire aussi qu'il y a des régions qui sont plus agréables que d'autres. Par exemple, l'ail des ours, on en trouve partout au printemps.
Oui, un peu partout. Ouais.
Ouais.
Vraiment, là-dessus, j'en ai eu dans la région du Nord, à Lille, autant qu'en montagne. Ouais.
D'accord. Donc, et vous avez appris à les reconnaître, ces plantes, et aussi appris à les trouver. Il y a des bons plans cachés pour les champignons, il y a des bons endroits où on peut trouver justement cette ail des ours.
Oui, il y a des endroits qui sont un peu spécifiques, mais on le sent direct, ça va être dans des forêts, et puis pour l'ail des ours, par exemple, on va vraiment sentir l'ail d'un seul coup dans l'environnement dans lequel on se trouve, donc on le trouve comme ça. Et moi, je me suis vraiment formé sur le tas. J'ai fait un tour de France à pied et à vélo, qui est mon premier gros voyage il y a 4 ans. Et c'est pendant ce voyage-là où je me suis renseigné, où je discutais beaucoup avec les gens qui étaient en montagne et qui, au fur et à mesure, me montraient les différentes plantes qui peuvent exister. Donc l'ail des ours, ça va être en forêt. Après, il y a en alpage, il y a beaucoup de le Kenopode bonhenri, qui est l'épinard sauvage, qui est aussi pour moi le quelque chose de, c'est de l'épinard, quoi. Donc ça va vraiment pimper avec un peu d'ail qu'on a, un plat de pâtes va devenir juste incroyable avec, puis ça a une saveur vraiment particulière de cueillir et derrière de transformer et de manger, c'est quelque chose qui est super chouette, c'est un peu comme une reconnexion à un environnement qu'on a un peu perdu,
Et pareil, vous êtes je pense que nos auditeurs l'ont compris, vous êtes dans une démarche de sobriété. Alors moi, il y a une recette qui m'a quand même bien interpellé dans votre livre, qui est votre recette à base de peau de banane, ça m'intrigue. Ça se cuisine facilement, la peau de banane?
En tout cas, dans cette recette-là, en pancake, l'idée, c'était de trouver, on va manger une banane pendant son effort, qu'est-ce qu'on fait sa peau de banane? Et en fait, la plupart des peaux, des fruits et légumes se mangent, c'est juste que nous, on a l'habitude de les enlever, c'est là où il y a le plus de nutriments.
Ouais.
Une petite astuce de que faire de cette peau banane. Et comme les pancakes, là, c'est des recettes où je mets pas d'œufs dedans, ça permet de donner, en fait, la banane, de manière générale, donne un liant, en fait, à la préparation.
Ouais, une sorte d'amidon, comme si elle amidonnait le tout.
Exactement,
Si nos auditeurs ou nos auditrices ne se sentent pas l'âme ou l'énergie ou la compétence pour faire leur popote, quel conseil est-ce que vous leur donneriez malgré tout pour se nourrir d'une manière sobre et gourmande au quotidien?
Après, ça va dépendre si c'est en rando ou si c'est à vélo. À vélo, forcément, il y a pléthore de choix sans cuisiner. Si c'est en rando, c'est vrai que le couscous qui se cuisine pas et qui peut se faire à froid avec juste mettre de l'eau dans de la semoule et ensuite rajouter tous les ingrédients d'épices, d'ail, d'huile d'olive, ça fera complètement l'affaire, quoi.
Ouais. Dans ma question, je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut se nourrir de manière sobre et gourmande? Je me pose la question, là, moi, comme ça, est-ce que c'est compatible, ces deux objectifs? Mais avant de commencer à répondre, ça sera la question que je vais vous poser juste après la chronique d'Abel Guggenheim. Est-ce qu'on peut cuisiner de manière sobre et gourmande? Pour l'instant, on est vers la fin de Rayon Libre. Nous sommes avec Nicolas Leroux, toujours cuisinier, randonneur, chef. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, évidemment, je te souhaite une excellente année 2026 et on t'écoute pour ta première chronique de 2026.
Bonjour. Dans mes 3 précédentes chroniques, j'ai entre autres abordé l'aspect sémantique de la distinction entre vélo et VAE, ainsi que l'emploi d'expression vélo électrique, oxymore couramment utilisé, mais qui ne correspond à rien d'administrativement existant. Comme l'a écrit Albert Camus, Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Je continue à n'utiliser le mot vélo que pour les vélos et à parler de VAE pour ce que d'autres nomment vélo électrique. Mais c'est parfois difficile de ne pas utiliser un mot que tout le monde emploie autour de vous. Je me sens parfois dans la même situation que Benjamin Morel, un constitutionnaliste qui intervient souvent dans la presse et dans les médias audiovisuels, où il explique avec des mots simples et compréhensibles par tout le monde les méandres de la vie politique. Mais il a aussi une habitude que j'apprécie très particulièrement. Même lorsque toutes les personnes présentes parlent de l'article 49.3 de la Constitution, il emploie systématiquement et imperturbablement l'expression « article 49 alinéa 3 ». Car, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, la Constitution ne contient aucun article 49.3, mais juste un article 49 comportant 4 alinéas, dont le troisième est celui qui est improprement présenté comme un article autonome. L'article 49.3 de la Constitution de la République française est comme le vélo électrique, tout le monde en parle, mais il n'existe pas. Il y a au moins deux autres cas d'approximation sémantique dans le domaine du vélo, tous deux dans la dénomination d'association. Au cours du dernier Rayon Libre, vous avez pu entendre parler de la FF Vélo. Plus loin, dans l'émission, il a été question de la FFCT, Fédération Française de Cyclotourisme. Il s'agit du même objet, sauf que la FFCT existe et la FF Vélo n'existe pas. La FFCT a été, il y a quelques années, l'objet d'un putsch interne raté. Il était prévu de la renommer Fédération Française du Vélo. Avant l'Assemblée Générale qui devait voter ce changement, le nom du site avait été changé et un logo créé, mais le changement de nom ne fut pas approuvé. On garda cependant le site ffvélo.fr et surtout le logo, très efficace visuellement, ce qui accrédite pour beaucoup le changement de nom qui n'a pas eu lieu. Une autre curiosité est le nom ancien de l'association MDB, dont j'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration et d'en avoir été président, initiale qui signifie « mieux se déplacer à bicyclette » comme l'a décidé l'Assemblée Générale en 2004. Le nom précédent était, pour tout le monde, « mouvement de défense de la bicyclette », mais en réalité, il avait été créé en 1974 sous le nom « mouvement défense de la bicyclette » sans la préposition « de » entre mouvement et défense. Rien n'indique que ce changement, apparent sur la revue Roue Libre à l'été 1993, ait jamais été décidé. Il semble s'agir d'une évolution progressive collective, un mystère à éclaircir. À lundi prochain.
Merci beaucoup, Abel. Nicolas, donc oui, la dernière question que j'ai envie de vous poser, est-ce que pour vous, cuisiner d'une manière sobre et gourmande, c'est compatible ?
Oui, je pense que c'est carrément compatible et c'est aussi ce que je propose dans le livre. Je pense qu'il y a, il doit y avoir 95% des recettes qui sont végétariennes,
oui.
Quelques-unes qui sont véganes aussi. Forcément, du coup, c'est de la sobriété de diminuer au maximum les produits d'origine animale.
Oui.
Et également, l'idée aussi du livre, c'est de trouver des produits qui sont pendant le voyage autour de soi. Donc, c'est aussi de consommer local,
oui.
Ce qui permet de consommer plus sobre et aussi, via le tourisme qu'on fait, de participer à l'économie du coin. Donc, je pense que consommer local plus végétarien, c'est une cuisine qui est hyper réconfortante et hyper gourmande et sobre. Donc oui, sans aucun problème.
Il y a moyen. Et quand même, allez, une petite dernière question, Nicolas. Cuisiner, alors c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est pareil, c'est compatible de se faire sa popote et d'avoir quand même une approche minimaliste du chargement sur le vélo.
Absolument, oui. D'autant plus qu'il y a maintenant du matériel de réchaud qui est très minimaliste et qu'on peut très bien avoir le tout. Ça prend vraiment pas de place. En tout cas, moi, je voyage de façon très minimaliste et avec tout l'équipement qu'il faut. Donc, c'est complètement compatible. Ouais. On a souvent peur de ça, mais comme tout, il faut tester, se faire prêter du matériel au début pour tester à des copains. Et puis ensuite, si on accroche, pourquoi pas investir sur du matériel. Ouais.
Et puis pourquoi pas participer à l'un de vos ateliers. Merci beaucoup, Nicolas, auditeur, auditrice. Ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, le vélo est une chance. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Et pour bien l'enfourcher, mangez bien. Merci beaucoup, Nicolas Leroux, d'être venu nous raconter votre
votre vision de la cuisine en itinérance à vélo. Je vous le propose à tous et toutes de rester sur 93.fm, sur Cause Commune. Il sera 14h30 quand vous écouterez cette émission pour la première diffusion. Et je vous dis à la semaine prochaine. Avant, n'oubliez pas, ce vendredi, micro ouvert au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18, à partir de 19h. Venez, on se souhaiterait une bonne année pleine d'accolades et de bons gueuletons. À la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Jérôme.
Rayon Libre.